Les berceaux par Gaston Chéreau. Les heures les plus glaciales étaient celles des repas, parce qu'on était en face les uns des autres et qu'on ne pouvait pas abréger la contrainte. Il y avait plus de 15 jours que le silence était installé dans la maison. La domestique qui servait cherchait ce qu'il pouvait y avoir chez ses maîtres. Elle avait fini par déduire de son examen que c'était des affaires de bourse. Quand monsieur s'asseyait, il apportait un journal qu'il mettait près de lui et qu'il consultait à tout instant. Madame épiait son mari. Gisèle, les yeux levés, le visage grave, regardait au loin, bien au-delà des murs. L'atmosphère était devenue irrespirable. À l'office, on ne clabaudait pas. Cela sentait trop fortement le drame. Un soir, pourtant, la cuisinière osa demander à mademoiselle Gisèle Phaéton ce qui se passait dans la famille. « Rien, Mélanie, rien de grave. Il ne s'agit pas de monsieur Georges. » Un sourire éclaira le beau visage de Gisèle. « Non, mon frère va bien. Vous le verrez bientôt. Ce n'est rien, Mélanie. Quelques tracas. En ce moment, tout le monde en a. » Et la démarche lasse, mais si noble, elle s'était retirée. Et qu'elle était douce. Qu'elle était jolie. Elle avait de beaux yeux clairs dans son visage de brune, des yeux ardents à chaque instant traversés par des flammes. Naguère, elle était vive, rieuse. On entendait ses exclamations tout le long du jour et ses réparties. Depuis 2 mois, il semblait qu'un nuage se fût abattu sur la maison. Les jasements ordinaires de la vie s'étaient assourdis puis avaient disparu. On se déplaçait sur la pointe des pieds, on fermait doucement les portes, jusqu'au bruit de la vaisselle qui s'était amenuisée. Quand la sonnette de la porte tintait, c'était un bouleversement de la cave au grenier. Pourtant, madame continuait de visiter ses amis et Gisèle l'accompagnait. Le salon s'ouvrit une fois pour les recevoir. Ce fut comme la répétition d'une pièce. Madame Phaéton souriait, posait des questions, semblait ne pas entendre les réponses, s'activait près de ses invités. Gisèle aussi se dépensait. Elles jouaient leur rôle à la perfection. On n'aurait jamais pensé que c'était ceux d'un drame. La dernière invitée partit. Ah ! Gisèle se jeta dans les bras de sa mère qui soupira, secouant la tête lentement. Tout à coup, entendant quelqu'un passer dans le vestibule, elles se séparèrent brusquement. Un soupir encore et chacune s'enfuit à ses affaires. Monsieur Phaéton entrait. Il ne s'était jamais aperçu que sa femme et sa fille pouvaient s'entendre contre lui. D'ailleurs, elles ne s'entendaient pas contre lui. Elles acceptaient simplement leur destin, sans que l'une rejetât sur l'autre ses responsabilités, sans plaider sa propre cause. Décidément, il ne s'agissait pas d'affaires d'argent. Le train de maison n'avait pas été réduit. Il n'avait jamais été question de vendre l'auto. Le garde des Breteaux, qui était venu trouver son maître plusieurs fois, n'avait jamais essuyé un refus, même quand il s'était agi de refaire les parquets à faisan et les allées de tir dans les anciennes coupes et qui, au prix de la main-d'œuvre, coûtaient les yeux de la tête. L'entrepreneur qui allongeait la serre et faisait un jardin d'hiver poursuivait ses travaux. Non, il ne s'agissait pas d'affaires d'argent, mais c'était bien extraordinaire. Plus de piano, plus de TSF, plus d'audition de disques. Et plus de gaieté, plus de rire de Gisèle, de ce rire qui partait du premier étage, planait sur le jardin, ou se répandant par l'escalier, emplissait tout le rez-de-chaussée. Par un train du soir, la nuit était tombée depuis longtemps, M. Georges débarqua, arrivant de Paris. C'était après le dîner, et tout de suite, la famille s'enferma dans le cabinet de travail de M. Phaéton. Les portes étaient doubles, rien ne filtra. Le lendemain, quand le valet de chambre apporta le petit déjeuner de son jeune maître, il le trouva dans sa chambre, en train d'écrire, lui qui d'ordinaire ne lambinait pas pour aller dans les jardins ou pour prendre l'auto. « Monsieur Georges ira-t-il au Breteau ce matin ? Je crois que la cuisinière ne serait pas fâchée de recevoir des légumes du potager. » Georges Phaéton répondit, « Je n'irai pas au Breteau, je ne sortirai pas, j'ai à travailler. » Il resta 2 jours. Ce fut à peine si on l'aperçut une fois hors de la maison. C'était un matin. Il avait passé son bras à celui de sa sœur et les yeux à terre, tous les deux s'en allaient lentement de l'allée qui conduit à l'orangerie. Quand ils rentrèrent, c'était à l'heure du déjeuner. Ils croisèrent leur père qui s'arrêta. Ils eurent échangé quelques mots. Gisèle faisait de la tête de l'insigne de dénégation, avec toujours les regards perdus. Son père, qui avait les mains au dos, ouvrit les bras, avançant le buste et la tête comme quelqu'un qui accepte une décision contre laquelle il ne peut rien. Georges, le visage grave, reprit le bras de sa sœur et les deux jeunes gens rentrèrent. Cela, les trois serviteurs de la maison le virent, et ils se contemplèrent, épouvantés par l'énigme qui persistait et dont la menace ne s'éloignait pas de la maison. George Phaéton repartit. Il dit à la cuisinière qu'il reviendrait après ses examens. « 5 semaines, Mélanie. Ensuite, les vacances. Tu pourras m'en faire des petits plats. » En somme, il avait paru gai. Il ne s'agissait donc pas de lui. Une fois qu'on avait admis qu'un drame se jouait dans la famille, on était obligé de convenir qu'un seul personnage s'était profondément transformé, c'était Gisèle. Elle était soudainement devenue grave et volontaire. On sentait qu'elle était capable de dire non et de persister. Encore une modification bien extraordinaire dans sa vie. Elle, qui n'allait jamais à la messe que le dimanche, s'y rendait maintenant tous les jours, à la première, à celle de 6 heures qu'on appelle au village la messe des bonnes sœurs. Enfin, cela se répandit comme un brouillard du matin qui se lève de la vallée. Il part de l'angle d'un pré, ou du milieu, ou de l'anse de la rivière, sans qu'on puisse dire sérieusement que c'est ici ou là que la brume a commencé de troubler la vue, et l'on s'aperçoit soudain qu'il a imperceptiblement escamoté le sol. Il traîne au pied des arbres, noie à demi les buissons. Au-dessus, le paysage est plus net et le ciel est plus bleu. Les premiers rayons du soleil touchent le coteau et font une fête. Les pentes sont rouges et or. On se dit que la journée se prépare merveilleuse, quand on s'aperçoit que la brume a gagné le sommet des arbres, qu'elle a noyé la vallée et qu'elle ascensionne vers le ciel. Un instant après, plus de soleil, plus de fête, le deuil du gris est partout. Personne n'en avait soufflé mot et cependant chacun croyait dans la maison que Mademoiselle Gisèle Phaéton s'apprêtait à prendre le voile. Mélanie osa lui en parler, mais elle le fit avec de tels sous-entendus que sa jeune maîtresse ne comprit pas. Quand, un matin, Gisèle quitta la maison en compagnie de son père pour aller prendre le train à la gare de la Mortagne. On se dit qu'on ne la reverrait plus. Madame Phaéton ne cachait pas ses larmes. Il y avait 1 heure que sa fille et son mari l'avaient quittée quand on la trouva évanouie dans sa chambre. À peine revenue à elle, elle refusa avec la dernière énergie de faire appeler le médecin. Au changement de Saint-Pierre-des-Corps, monsieur et mademoiselle Phaéton durent monter dans un wagon de seconde, celui des premières classes ayant été supprimé après un accident. Dans leur compartiment, monta d'abord une femme avec un poupon qu'elle installa sur la banquette dans des linges propres dont elle lui fit un petit lit. On lui passa un autre poupon qu'elle installa à côté. Une seconde femme monta, elle aussi, avec un bébé. Puis on lui en passa un autre. Quand le train démarra, il y avait rangé comme pour une exposition 6 petits enfants sur la banquette. Celle des 3 femmes qui dirigeaient le voyage s'excusait auprès de M. Phaéton et demandait s'il ne serait pas trop dérangé par cette compagnie. Elle était très polie, s'exprimait doucement, mais avec fermeté. « Tout ce que je me permets de vous demander, monsieur, c'est de ne pas fumer à cause des petits. »« Qu'ils sont sages, » dit M. Phaéton. « Ils sont toujours sages chez nous. C'est à croire que ces pauvres chéris se doutent, si petits, qu'ils ne doivent pas être encombrants. » Elle expliqua que c'était des petits de l'assistance publique, des enfants de filles-mères, des enfants abandonnés. « Moi, je ne suis pas une nourrice, mais les 2 femmes qui sont là et celle qui est dans l'autre compartiment sont des nourrices, et je crois qu'elles sont contentes, n'est-ce pas, Adèle ?»« Oh oui, » répondit la grosse fille, « moi, je suis contente. Cette fois, je peux me vanter d'être bien servie. Regardez-moi ces 2 du coin, s'ils sont beaux. Ah, qu'ils sont beaux !» Elle se pencha vers eux pour leur faire des agaceries, les regarda avec un grand amour, et les 2 petites têtes lui sourirent pendant que 2 petits points roses s'agitaient au bout de menus bras. À son tour, l'autre nourrice se pencha vers les siens. « Si vous croyez qu'ils ne sont pas magnifiques aussi, ceux-là, mon petit brun a-t-il l'œil malin? Et la belle petite Marie-Claire? Tu es jolie, tiens, tu es trop jolie !» Gisèle Phaéton, qui d'abord n'avait point trop osé regarder les 6 poupées de chair qu'on avait installées devant elle, ne se gênait plus maintenant pour les contempler. Et elle parlait à la femme qui conduisait le voyage. « Nous les menons à Saint-Gratien. Là, on s'occupera d'eux jusqu'au sevrage. Ensuite, on les enverra à la campagne. Un ici, un autre là-bas. C'est le moment le plus pénible, parce que dans ces petits, il y en a qui se sont déjà accoutumés à vivre ensemble. Alors, on sépare quelquefois des frères et des sœurs. On a beau dire qu'ils se retrouveront un jour, le plus souvent, ils ne se retrouvent jamais. Et ça ne dit rien. » C'est courageux, ça ne pleure pas, ou quand ça pleure, ça se cache. Je vous jure que, si petit, ça semble connaître la vie. Il n'y a pas plus mignon qu'eux. En prenant un pour le faire sourire. Enfin, Regardez-moi celui-là. Est-il assez mignon et joli et robuste? Mais voyez ça, voyez donc ça. » Elle consulta la fiche qui était fixée sous la bavette. « Il aura 3 semaines demain. » « On lui en donnera le double. » Sa mère n'a pas voulu le revoir hier parce qu'elle a eu peur de ne pas pouvoir se séparer de lui. « Pourquoi l'a-t-elle abandonné ?» demanda Gisèle. La femme haussa les épaules. « Pourquoi ? Elle ne connaissait pas le père. Elle a eu peur de la vie. Une domestique qui craignait qu'on lui retire sa place. Est-ce qu'on sait ?»« Souvent, c'est beaucoup la peur d'avouer qu'on a un enfant. Ah, si elle les voyait comme nous les voyons, nous !»« J'en transporte plus de 500 par an. Je crois qu'il n'y en a pas un seul dont j'aurais accepté de me séparer. » « Et voyez, moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai été marié. Avant d'être marié, je suis resté 5 ans avec mon mari. Je vous jure que si j'avais un enfant de lui, à ce moment, je l'aurais gardé. Et ce n'est pas la honte qui m'aurait empêché d'en être fier. Et voilà. Mon homme a été tué à la guerre et depuis, c'est moi qu'on a choisi pour transporter les enfants dont les mères ne veulent pas s'encombrer. » Elle avait laissé prendre à Mlle Phaéton le petit qu'elle tenait sur les genoux et Gisèle le berçait en le buvant des yeux. Même, elle pleurait silencieusement, sans un sanglot. M. Phaéton voulut poser une question, mais sa voix était tellement mal assurée qu'il fut obligé de se reprendre à 2 fois pour demander ce qu'il voulait. « Mais non, dit la femme, ils ne sont pas malheureux, ils sont bien soignés et propres, regardez cela. » À la gare où les femmes et leur chargement de poupons descendirent, Gisèle se sépara de son fardeau. « Je voudrais, proféra-t-elle, lui donner quelque chose à ce petit, est-ce que je peux ?»« Non, mademoiselle, il m'est impossible d'accepter. Il faudrait que ce soit mis à son nom, et pour cela vous devrez vous adresser à l'assistance publique. Dans ce cas, c'est moi qui serai réprimandé. On voudra savoir comment vous avez connu le numéro et le prénom du petit. Non, croyez-moi, n'en faites rien. Vous êtes bonne. Merci, mademoiselle, vous êtes trop bonne. Tenez, embrassez-le. Il ne s'en souviendra pas, ça ne fait rien. Embrassez-le quand même. » Lorsque la portière se referma, Gisèle retomba à sa place, la figure en pleurs, la tête dans les mains. C'était comme si elle venait d'abandonner son propre petit. Les bras croisés, le regard fixe, les mâchoires serrées, M. Phaéton ne bougeait. Tout à coup, il s'abandonna lui aussi et se retournant vers sa fille, il la tira contre lui. « Mon petit, ma pauvre enfant, c'est comme un ordre du destin. Papa, c'est affreux, je ne pourrai jamais... « Tu as vu? Tu les as vus ?» Et à voix basse, la prière hachée de sanglots. « Si j'étais seul, tu entends, je n'abandonnerais pas celui qui naîtra. Alors je te supplie de l'accepter. Je suis une malheureuse, une misérable. Mais pense, papa, que tu pourrais rencontrer un jour un de ces petits en te demandant si ça n'est pas mon fils qui est devant toi. Papa, aie pitié de moi, aie pitié de lui. » M. Phaéton pleurait, mais il se sentait comme baigné par une grande douceur. Il se disait que pour la première fois de sa vie, il sentait naître au fond de lui un sentiment libre, quelque chose d'immense, de plus fort que les lois faites par les hommes, que les habitudes acceptées par eux et qui les courbent. Libre, il était libre. Et celle-là qu'il pressait contre lui serait libre aussi d'être une maman. La vie se referait, elle qui se défait en un jour. Elle mettrait des années à se refaire, mais elle reprendrait son cours. Et il n'y aurait pas, dans le lointain, un petit être abandonné dont on ne connaîtrait même pas la couleur des yeux. Le soir, en arrivant à Rennes, M. Phaéton écrivit à sa femme qu'il partait avec Gisèle pour les côtes du Nord, à la recherche d'une villa où elle viendrait les rejoindre. S'ils devaient quitter leur pays, ils le quitteraient plutôt que de... Ainsi s'achèvent Les Berceaux par Gaston Chéreau.